le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce magazine citoyen consacré ce midi aux bonnes pratiques en mer. On va parler de sécurité des usagers du lagon mais aussi d'environnement. Avec nous Marc Sabatier, le président de la station SNSM de Nouméa. Bonjour.
Bonjour.
Et Tiffaine Reed, chef des gardes nature de la province Sud. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi alors qu'on approche véritablement de la période des vacances, de la saison chaude, peut-être plus de monde également sur le lagon. Est-ce que, par exemple, Marc Sabatier, c'est une période de vigilance accrue pour les sauveteurs en mer ?
Alors, effectivement, il y a beaucoup plus de gens qui vont en mer à cette période-là. Et donc, automatiquement, statistiquement, on a beaucoup plus de gens à aller secourir.
C'est le même cas pour la province au niveau de l'environnement. Il y a une vigilance également à cette période ?
Oui, c'est sûr. C'est une période où c'est les vacances scolaires. Les gens ont envie d'aller profiter en fait, du lagon, des îlots. Donc, il y a potentiellement plus de monde en mer en ce moment qu'en hiver.
Et potentiellement, peut-être des gens un petit peu moins aguerris également, qui connaissent un petit peu moins les règles ou pas du tout ? Ou c'est une fausse idée de se dire ça ?
Non, je pense que c'est une fausse idée. Des gens qui ne connaissent pas les règles, il y en a toute l'année.
Ah oui, donc c'était pas dans ce sens-là que je le voyais, pardon. Mais effectivement. Justement, quel type d'intervention vous avez ? Est-ce qu'elles sont particulières sur ces périodes-là ? Je pense au sauvetage en mer. Est-ce que, voilà, on a des types d'interventions différents ?
Alors, généralement, très souvent, ce sont des pannes. Ça peut être des pannes électriques, hydrauliques ou alors de carburant. Mais pas que. Aussi, on a des gens qui sont perdus. Et il faut faire des recherches en mer pour faire du sauvetage de la vie humaine.
Donc, pour rappel, vous, la SNSM, vous intervenez quand le COS vous déclenche concrètement ?
Voilà, c'est ça. Alors, nous sommes un des outils dans la boîte à outils du COS. Le COS gère tous les moyens aériens, la gendarmerie maritime, la marine nationale et la DSCGR. Et avec toute sa caisse à outils, et ça leur permet de choisir le meilleur moyen pour aller intervenir sur la situation.
Le COS, pour être bien précis dans cette émission, c'est ce qu'on appelait auparavant le MRCC.
C'est ça. Le MRCC, c'était Maritime Rescue Coordination Center, et maintenant COS, c'est le centre opérationnel de secours et de sauvetage. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est en français.
Vous avez eu des interventions marquantes ces derniers jours, ces dernières semaines ?
Alors, une intervention marquante avec une personne qui était tombée d'un bateau, mais ça remonte à quelques mois. Qui est resté dans l'eau entre le phare Amédée et l'Ilomètre pendant à peu près 3 heures. Ça a été vraiment une intervention en pleine nuit. On a eu beaucoup de chance de le retrouver, mais pas que. Je pense que le COS avait fait un travail remarquable pour nous préparer à la boîte de recherche qui nous a permis de le trouver. On l'a retrouvé à peu près au bout d'un quart d'heure de recherche, ce qui est quand même exceptionnel. Voilà, et autrement, là, ça y est, on commence à avoir des petites interventions. On a eu un bateau qui s'est échoué à La Havana il y a une semaine, un bateau qui s'est échoué sur l'île aux Canards aussi, et puis diverses des gens qui s'étaient perdus, panne d'essence et des choses comme ça.
Vous intervenez combien de fois par an ?
Alors, ça oscille entre... Dans les années où on est intervenu le plus, c'était 80 interventions, mais c'est plus autour de 40 interventions par an.
Uniquement sur la station de Nouméa ?
Alors, sur la station de Nouméa, je ne connais pas les statistiques de toutes les stations autour de la Nouvelle-Calédonie. Je sais que le COS a à peu près 350 opérations par an. Ils ne sollicitent pas toujours obligatoirement la SNSM, mais aussi ils appellent aux plaisanciers ou aux pêcheurs qui sont aux alentours.
Alors vous le disiez, des interventions, fort heureusement, vous avez retrouvé les personnes en temps saines et sauves et en temps et en heure. Il est bon de rappeler quand même les consignes de sécurité, puisqu'il y a toujours des messages à rappeler à cette période-là, puisque forcément, quand on donne bien l'alerte, on est retrouvé plus facilement, on est dépanné plus facilement.
Bien sûr. Alors, avant de partir, j'encourage tout le monde à s'enquérir de la météo. C'est pas la peine d'aller braver la tempête juste pour aller sortir, ça en vaut pas le coup. Ensuite, il faut avoir le matériel de sécurité, les gilets, les fusées, nanques, navirons, enfin tout ce qui est nécessaire pour partir en mer. Mais surtout, appeler le COS. Vous avez deux moyens pour appeler le COS. Vous appelez avec, soit vous avez une VHF sur le canal 16, soit vous les appelez avec votre téléphone portable sur le numéro, le 16 aussi à l'identique. Ce qui vous permet de leur dire où vous partez, à combien vous êtes, quel est votre bateau, et leur dire une heure approximative de retour à la maison. Et comme ça, si vous avez dépassé l'heure et que vous n'avez plus de batterie ou plus de VHF ou quoi que ce soit, ils peuvent déclencher les recherches.
Donc ça, c'est une bonne pratique à prendre. Est-ce que c'est suivi d'ailleurs par les usagers du lagon?
Alors, au niveau de la VHF, beaucoup d'usagers annoncent leur départ. Hein. Il suffit de veiller la VHF et on s'en rend bien compte. Nous, on est souvent en mer et on entend souvent des bateaux qui partent. Mais je pense que alors les gens n'osent pas, mais il faut oser. C'est un service qui est fait pour ça. Et vous savez, ça facilite grandement la tâche quand on a un problème et qu'il s'agit d'aller rechercher les gens.
Donc la VHF, c'est quand même l'outil idéal, puisque les téléphones portables ne passent pas forcément, d'ailleurs.
Non, les téléphones portables ne passent pas tout le temps. Il y a des zones de zones blanches. Mais la VHF, a priori, il y a très peu de zones blanches. Donc, c'est bien d'avoir une VHF à bord, mais sur une plate de 3,50 m ou 4 m, c'est assez coûteux. Voilà.
Alors, vous donniez le conseil tout à l'heure en antenne qu'on pouvait, par exemple, envoyer des SMS à ses proches. Ça passe parfois mieux que le téléphone quand on n'a que cet outil-là.
Oui, alors, dès qu'on dépasse l'îlot Mato dans le sud, et certainement d'autres zones, vous avez du mal à avoir une liaison téléphonique. Par contre, on s'est rendu compte que quand vous envoyez un SMS, à un moment donné, il va passer. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous êtes en difficulté, à envoyer un SMS à un de vos proches qui fera le relais et qui pourra appeler le COS. Mais de façon générale, appelez toujours le COS, parce que ce n'est pas la peine d'appeler la SNSM. Nous sommes un outil aux ordres du COS, donc on ne prendra aucune initiative si vous nous appelez directement.
Alors ce numéro, le 16, je pense qu'on va le rappeler plusieurs fois dans cette émission, puisque c'est aussi un numéro qu'on peut composer pour parler de questions d'environnement. Mais avant cela, peut-être Yves Henry, de parler de l'organisation des gardes nature en province sud. Concrètement, que fait votre équipe et comment ça se passe en cette période-là?
Donc nous avons 4 antennes. Une antenne sur Nouméa, une antenne sur Païta, une antenne sur La Foix et une antenne sur Bouraille. Toutes les antennes en fait ont des moyens nautiques qui sont dédiés à la sensibilisation et la surveillance en fait sur les différentes zones, avec des moyens appropriés, hein, puisqu'on a des navires plus ou moins grands selon les zones, des jet skis, des plates, ce qui nous permet d'aller faire de la sensibilisation et du contrôle en mangrove quand il y a besoin, ou des grosses unités quand on a besoin d'aller sur des zones plus éloignées. Les gardes nature aujourd'hui sont au nombre de 14 et ils font autant du travail sur la pêche que la chasse.
Donc ce sont des agents qui sont très polyvalents et qui connaissent la réglementation sur le bout des doigts.
Exactement, et qui sont là surtout pour l'expliquer aux usagers, puisque en fait on peut mettre beaucoup de réglementations en place, mais si les usagers se les approprient pas et comprennent pas pourquoi ces réglementations elles ont été mises en place, eh ben c'est qu'on a loupé quelque chose. Donc on passe beaucoup de temps en fait à expliquer les règles, mais aussi expliquer pourquoi on les a mis en place. On va sensibiliser en général 10 000 personnes à l'année sur toute la province sud et distribuer des centaines de guides du lagon et de guides de la chasse en fait aux usagers pour qu'ils puissent avoir des petits rappels si on n'est pas à côté d'eux pour leur rappeler la réglementation, qu'ils puissent aller regarder les différentes règles qui sont existantes. Et il y a aussi l'application en ligne qui permet, s'ils n'ont pas le guide physique, de pouvoir aller sur le site de la province sud et de télécharger ce guide et de l'avoir en tout temps.
C'est essentiellement un travail de pédagogie que vous faites pendant cette période de vacances?
C'est un gros travail de pédagogie qu'on fait tout au long de l'année, qui est encore plus important pendant cette période estivale, puisque, comme on disait tout à l'heure, les gens vont plus sortir en mer et puis peut-être faire des sorties plus longues, hein, avec des campings potentiellement sur plusieurs jours pendant la période estivale. Donc, c'est un travail qu'on fait tout au long de l'année, puisque, en fait, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, tout au long de l'année, on va faire des actions de chasse, de pêche. Donc voilà, c'est tout au long.
Et là, les îlots, c'est le point le plus surveillé aujourd'hui. Il y a notamment en raison d'une surpopulation des îlots.
Alors c'est vrai que c'est surtout les aires marines protégées ou les aires protégées en général qui vont avoir un focus particulier au niveau des équipes, puisque là les règles sont beaucoup plus strictes qu'en dehors de ces aires-là. parce que, en fait, dans toutes les aires protégées, on va avoir une interdiction de collecte ou de pêche ou de chasse. Donc là, on va avoir vraiment un regard particulier. Et bien sûr, d'aller voir tous les usagers quand il y a des week-ends de beau temps et de rappeler, en fait, les commandements, en fait, importants, même si on n'est pas en aire protégée, qui sont importants pour être sûr que, on va pas dégrader, en fait, un habitat qui est très important pour la nidification des oiseaux, des tortues, ou même ne pas gêner ses voisins, puisqu'on peut parler d'environnement, mais on peut aussi parler en fait de choses qu'on peut faire sur les îlots qui vont déranger les personnes qui sont à côté.
Quel est le béaba à connaître quand on part en mer, justement pour protéger l'environnement ou pour en prendre soin? Qu'est-ce qu'il faut connaître? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête?
Alors j'ai bien aimé tout à l'heure regarder la météo, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même hyper important. En fait, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des réglementations qui peuvent être, pas au niveau provincial, hein, mais au niveau du gouvernement ou communal sur les prévifeux. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte que ces réglementations sont aussi applicables sur les îlots. Donc le feu est interdit dans les aires protégées, dans les réserves, mais sur les autres îlots, ne l'est pas. Par contre, quand il y a des interdictions communales comme ça qui vont interdire le feu, en fait, ces interdictions s'appliquent aussi sur les îlots. Et c'est vrai que si les gens ne regardent pas Météo NC et ne regardent pas cette application-là avec le prévifeu, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils peuvent, en faisant juste un petit feu sur un îlot, déclencher en fait, des gros moyens derrière, puisque aller éteindre un feu sur un îlot, les moyens engagés derrière pour aller les éteindre vont être très conséquents. Et puis, on peut perdre toute une végétation sur un îlot, ce qui va impacter l'îlot, l'érosion, les espèces qui sont dessus et qui l'utilisent. Donc, c'est vrai que c'est un bon... C'est quelque chose qu'il faut aller regarder et qu'il faut connaître. Et après, les règles de base, j'ai envie de vous dire, c'est de se renseigner avant de partir en mer, que ce soit avec le guide du lagon ou d'appeler les différentes antennes de la province, que ce soit en province sud ou ailleurs, et de poser des questions. Il ne faut pas avoir peur de poser une question bête. Il n'y a pas de question bête. En fait, il faut vraiment poser les bonnes questions avant de se retrouver à faire quelque chose qui pourrait être très dommageable à l'environnement.
Alors, on le disait, le code de l'environnement dépend de la province. Il y a une réglementation qui est différente d'une province à une autre. Est-ce que les usagers, justement, connaissent ces différentes réglementations et s'adaptent aussi en fonction de la zone géographique?
Oui, la plupart des usagers, en fait, qui vont, on va dire, utiliser les différentes zones, savent quand même qu'il y a des différences entre les différentes provinces. Après, on a quand même beaucoup de choses qui sont assez similaires. Donc, il n'y a pas non plus d'écart absolument extraordinaire. La plupart du temps, les gens savent bien que les périodes de fermeture de crabes, de picots, ce genre de choses, la pêche en aire protégée, en fait, c'est interdit partout, qu'on soit dans un code de l'environnement ou dans un autre.
Alors, je le disais, le 16 aussi peut servir pour des observations qui concernent l'environnement, la faune, la flore?
Oui. Donc, depuis quelques années maintenant, en fait, la province sud a signé une convention avec le COSNC et ils vont centraliser en fait les appels liés aux animaux protégés en détresse, surtout les tortues et les mammifères marins et les dugongs, ce qui fait que les gens, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années, ne savent pas qui appeler quand ils avaient comme ça une tortue qui allait pas bien ou qui était morte. En fait, l'information passait par trop d'interlocuteurs, on avait trop de temps qui passait entre le moment où l'alerte était donnée et l'information nous arrivait. Et en fait, depuis que cette convention a été signée, c'est vrai que les délais d'intervention de nos équipes sont raccourcis. Ça nous permet d'être réactifs le plus rapidement possible en cas de sauvetage. Une fois que si l'animal est encore en vie, il faut qu'on puisse y aller le plus rapidement possible. Donc ça fait maintenant... 4 ans, je pense que c'est mis en place avec le COSNC, et ça fonctionne bien aussi parce que les opérateurs ont été formés à poser les bonnes questions. Comme on disait tout à l'heure avec nos collègues de la SNSM, en fait, les gens, des fois, ne savent pas exactement où ils sont. Ils ne nous donnent pas les bonnes informations sur peut-être la taille de l'animal, où est exactement l'animal, qu'est-ce qui est en train de lui arriver. Et il faut qu'on puisse avoir les bonnes informations pour mettre en œuvre en fait, les bons moyens pour aller chercher les individus. Je ne vais pas venir en babouche et en kayak alors qu'en fait, ce jour-là, il fallait que je prenne un gros moyen nautique parce que c'était un dugong qui était en mer, qui était enchevêtré. Donc là, les moyens derrière qu'on met en œuvre sont vraiment en lien avec le signalement qui est donné et les agents du COS sont formés aujourd'hui pour poser les bonnes questions, nous les retranscrire le plus rapidement possible pour qu'on puisse mettre en œuvre les moyens adaptés.
Pareil, le fait de poser les bonnes questions au niveau du COS, je suppose que c'est intéressant aussi pour le sauvetage en mer. Il faut d'abord bien se signaler aussi quand on a un souci.
Alors oui, il ne faut pas attendre d'avoir de l'eau au genou dans le bateau pour appeler le COS, c'est trop tard. Ça va très 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 vite. Et plus vous prévenez que vous avez potentiellement un éventuel problème que vous allez avoir, il ne faut pas avoir honte d'appeler le COS. Vraiment, les gens sont là pour ça et vous serez très bien reçus. De même que quand vous naviguez et que vous voyez une bille de bois ou un conteneur ou des caisses ou des choses qui peuvent être un problème pour la navigation, il ne faut pas hésiter à appeler le COS. Vous les appelez. Si vous avez le coordonnées géographique, c'est parfait. Comme ça, ça permet tout de suite d'enclencher d'autres moyens pour pouvoir aller localiser, marquer ou enlever. Des fois, on trouve des congélateurs qui sont à la surface de l'eau. Mais quand vous êtes à 20 nœuds et que vous rencontrez un congélateur avec une plate, ça peut mal se terminer, quoi. Donc surtout, il ne faut pas hésiter. Dès qu'il y a le moindre signal où vous allez avoir une avarie ou un problème, d'avertir le COS. N'attendez pas d'être en difficulté. Ça va très, très vite en mer.
Les gens ont peur d'appeler le COS, ont honte. C'est ce que vous sembliez dire entre les lignes.
Ouais, je pense que ils se disent on va pas les déranger. Donc je sais pas si c'est une honte, mais de pas vouloir embêter les gens. Non, je crois qu'il faut vraiment prendre l'habitude. C'est un service de l'État qui est fait pour ça, et vraiment vous serez très très bien reçu.
Et puis il y a toujours la question de combien ça va me coûter.
Oui, alors, effectivement...
Qui peut aussi refroidir l'idée de passer un appel.
Effectivement, en tout cas, si vous appelez, ça ne va rien vous coûter. Si vous demandez l'assistance d'un navire de la SNSM pour un remorquage, ça va être payant. Ça va être facturé à l'heure, à partir du moment où le bateau quitte la station. Mais par contre, tout ce qui est vie humaine, si par exemple vous êtes en difficulté, votre bateau, vous souhaitez le laisser sur zone et que vous vouliez qu'on récupère les passagers, il n'y a aucun problème, on récupère les passagers, le bateau reste au mouillage et on ramène les gens à terre gratuitement. Ça n'a jamais été, la vie humaine, le sauvetage de la vie humaine n'a jamais été payant.
Et tout ça se déroule directement lors de l'appel au COS. Vous n'intervenez pas à ce moment-là?
Non. En fait, c'est le COS qui gère toutes les décisions qui peuvent être prises. Il n'y a pas de pression qui est mise par qui que ce soit.
Donc, effectivement, la personne sait quand l'événement se passe et qu'elle déclenche des secours, combien ça va lui coûter et combien ça va se passer.
Éventuellement, s'il y a lieu de faire un remorquage. Après, si on laisse le bateau sur place, on ramène les gens et il n'y a aucun problème. On fait aussi pas mal d'interventions en lien avec le secourisme, puisque nous avons à bord des bateaux des secouristes, nous avons des plongeurs et nous avons les équipiers de pont. Voilà.
Rappelez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Ce sont des bénévoles qui sont formés tout au long de l'année. Comment ça se structure justement un équipage?
Voilà, alors par exemple, je vais parler de la station de Nouméa. On est à peu près 35 équipiers embarqués. Vous avez un patron, un sous-patron et des équipiers, plus éventuellement des équipiers secouristes ou des équipiers plongeurs. Ensuite, il faut avoir certains prérequis pour pouvoir rentrer à la SNSM, donc il faut avoir plus de 18 ans. On demande d'avoir des diplômes de secourisme et aussi au minimum le permis côtier, de façon à avoir des gens qui connaissent un petit peu la mer. Après, hommes, femmes, tous les métiers, la limite d'âge, c'est 67 ans. Et vous avez un rendez-vous avec quelqu'un de la station qui va évaluer vos motivations. Et éventuellement vous poser des questions pour voir un petit peu si c'est juste quelque chose que vous voulez faire de passager ou pas. Nous, on a besoin d'avoir des gens qui sont complètement impliqués. Nous avons la chance d'avoir une application qui nous permet de nous mettre disponible ou indisponible. Avant, c'était des astreintes, c'était très compliqué. Il fallait se prendre une astreinte pour 24 heures ou une semaine et tout. Maintenant, on a une application, on est disponible. Là, je suis actuellement avec vous, je me suis mis indisponible, donc je ne peux pas être appelé. Parce que je n'ai pas en capacité de rejoindre la station en moins de 15 minutes. C'est ce qu'on demande aux personnes. Ça facilite beaucoup la tâche du patron qui va déclencher les secours suite à l'appel du COS. Et c'est vraiment un outil qui est vraiment d'une simplicité et qui permet à tout un chacun de se mettre ou de s'enlever de sa disponibilité.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens techniques, humains, de fonctionner au niveau de la SNSM?
Alors, oui, alors on marche beaucoup avec les dons des particuliers, mais aussi des collectivités. Et la SNSM France nous fournit pas mal de supports techniques, de moyens financiers. Et en fait, c'est ce cocktail qui fait que nous avons des bons équipements, des bons bateaux et des moyens pour intervenir. On n'est pas obligé d'aller faire une quête pour aller faire le plein du bateau.
Mmh. Mais on connaît quand même l'état des finances publiques, les gens aussi qui ont des difficultés. Peut-être les dons sont moins importants depuis l'année dernière. C'est le cas ? Est-ce que vous le constatez ?
C'est vrai. On a beaucoup de gens qui demandent à arrêter souvent des prélèvements ou qui ne donnent pas un don annuel. C'est vrai qu'on le constate, mais je le comprends aisément. Hein. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Et au niveau des collectivités, on est assez soutenu par le gouvernement et par la province sud, je dois le dire, qui sont toujours présents si vraiment on a un pépin et qu'on est obligé d'avoir acheté un équipement un peu lourd. Voilà.
Parce que ça, c'est évidemment essentiel. Vous faites aussi une mission de service public sur le
tout à fait.
En mer.
Et tous les gens nous sommes tous bénévoles. Et vraiment, on est très engagés. Et je vous dis, alors on fait des campagnes de recrutement. Il y a beaucoup de turnover. Donc les gens en moyenne restent entre 2 et 4 ans. Et il faut renouveler l'équipage. En ce moment, on a une chance. On a un équipage qui est fort fourni avec des gens qualifiés. Et on n'est pas en recherche de bénévoles. Mais sinon, on passe par Facebook et on fait une campagne. Voilà. Et on a beaucoup de gens qui viennent nous rejoindre. Voilà.
Tiphaine Reed, bon, c'est un peu la même question, mais c'est différent évidemment puisque vous dépendez d'une collectivité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour l'environnement, la province sud a les moyens d'agir ? On sait que c'est évidemment très vaste cette zone à surveiller et à protéger.
Aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on a déjà les agents qui sont intégrés à notre service, avec aussi la chance d'avoir un nombre de personnes qui sont là depuis un certain nombre d'années, et puis des nouveaux qui étaient arrivés il y a quelque temps. Donc voilà, aujourd'hui, on est en capacité, en tout cas, d'avoir les moyens de nos ambitions et de continuer en fait à faire le travail que fait la province sud depuis la création du code de l'environnement en 2009. Donc on a de la chance de pouvoir pérenniser nos actions et de continuer à sensibiliser le public avec des choses qui sont importantes, puisque c'est sûr que l'environnement, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été relégué avec ce qui a pu se passer l'année dernière. Et en fait, non, c'est un sujet qui reste très important au niveau de la collectivité, puisque en fait, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de notre lagon, de tout ça. Donc c'est vrai que c'est important en fait de continuer toutes ces missions.
Il y a un volet prévention, bien sûr, mais il y a aussi un volet répressif qui est important aussi dans votre travail.
Donc c'est un volet qui est, on va dire, la dernière réponse possible en fait à quelqu'un qui n'a pas voulu entendre en fait les messages de sensibilisation, qui va peut-être être récalcitrant ou récidiviste qui a d'un coup dépassé les bornes des limites. Ça, c'est sûr que tous nos agents en fait sont assermentés et peuvent dresser des procès-verbaux qui sont ensuite traités par les autorités compétentes, puisque ce n'est pas la province sud qui va infliger des amendes ou des peines de prison. On est bien là sur une chaîne pénale respectée avec le parquet, avec nos collègues de la gendarmerie qui vont aussi suivre le suivi de nos procédures et pour ensuite les transmettre au parquet. Mais c'est vrai que c'est pas... C'est une partie de nos missions et on est obligé d'en arriver là avec certaines personnes, mais ce n'est pas le principal de nos missions tous les jours.
Ça représente quel volume environ d'affaires par an, de gens qui contreviennent au code de l'environnement ?
Donc sur les 10 000 personnes qu'on sensibilise en moyenne, on va être sur 1 à 2% de ces sensibilisations qui vont amener à de la verbalisation.
Donc le travail de prévention fonctionne ?
On espère, en tout cas, on est en dessous, peut-être on va dire, certaines années d'une moyenne nationale et elle est assez constante depuis un certain nombre d'années. Donc nous, on considère en tout cas qu'il faut continuer la distribution et la mise à jour en fait, de ce guide du lagon et de continuer à répéter les choses puisque on a toujours des personnes qui sont récalcitrantes et qui ne peuvent comprendre qu'en passant par cette phase-là.
Avant de conclure cette émission, peut-être rappeler les différents messages. Vous, c'est votre inquiétude, c'était le feu tout à l'heure. C'est vraiment le message principal que vous passez aujourd'hui.
C'est un des messages principal parce que, ben, vous voyez, depuis quelques jours, encore une fois, on a des feux de grande importance, hein, que ce soit en province sud ou ailleurs. Les moyens qui sont engagés derrière sont énormes. Et après, on va toujours faire des rappels en fait, sur la réglementation au niveau des aires protégées, puisqu'on a quand même la chance d'avoir des zones extraordinaires en Nouvelle-Calédonie et qu'il faut qu'on continue à protéger. Donc, il faut que les gens... continuer à se rendre compte que juste marcher au milieu des nids d'oiseaux, en fait, c'est pas anodin. On va impacter des espèces d'oiseaux qui sont presque avec des grosses colonies que en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a une grosse responsabilité. Et c'est vrai que les oiseaux, les gens ont moins cette sensibilité que pour les tortues ou les dugongs. Après, voilà, maintenant, j'ai dit le mot dugong. Alors non, s'il y avait une autre priorité, en fait, ça fait 3 ans maintenant, en fait, que les dugongs, ils sont en danger d'extinction critique sur la population de Nouvelle-Calédonie. Il nous resterait moins de 400 individus. Donc, il y a de grandes chances, en fait, que nos enfants et nos petits-enfants, ils en voient pas. Si on change pas nos comportements, si on se rend pas compte, en fait, que la population, elle est arrivée au bout et qu'elle risque de disparaître comme ailleurs dans le monde où il y a plein d'endroits en fait où ils ont complètement disparu. Donc là, on est arrivé au bout. Chaque dugong compte. Il faut vraiment qu'on fasse attention.
Comment on fait attention au dugong ? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs aspects.
Oui, alors on va avoir un aspect collision. C'est vrai que ça, c'est quelque chose en fait qui est facilement maîtrisable, on va dire, par le grand public. On peut savoir que quand on passe au-dessus d'une zone d'un herbier qui est l'habitat principal en fait de ces animaux, d'arriver à 20 nœuds, l'animal, il va pas avoir le temps de nous entendre ou de changer de direction, que ça soit pour les dugongs ou pour les tortues, mais c'est encore plus grave en fait sur ces animaux-là, une collision avec un dugong qui amène à la mortalité juste parce que on est allé un peu trop vite et qu'on n'a pas fait attention, c'est absolument détrimental pour la population. Donc il faut faire attention quand on sait qu'on arrive dans des zones comme ça, peu de profondeur, des herbiers, il faut ralentir, il faut faire attention, il faut laisser le temps à l'animal de pouvoir se retourner et de se déplacer.
Il y a une grosse campagne de communication d'ailleurs sur le dugong en ce moment.
Oui, parce que on en est arrivé vraiment à quelque chose de dramatique. C'est pas que des mots, c'est pas qu'une impression. On est arrivé à un stade en fait où il faut vraiment que tous on prenne en compte en fait que les dugongs sont en train de disparaître en Nouvelle-Calédonie.
Autre message de prévention pour rappel, même si on a commencé l'émission par cela, mais c'est très important de le rappeler avant de prendre la mer. Quels sont les différents réflexes, Marc Sabatier?
Alors, regardez la météo, s'enquérir de la météo. Je dis, c'est jamais plaisant d'aller quand il y a 25 nœuds de vent avec une plate. Donc vraiment, regardez la météo, vérifier son équipement de sécurité, la validité des fusées, la validité éventuellement si vous avez un extincteur à bord, parce que c'est important. C'est un des moyens pour se signaler dans le cas d'une avarie. Prévenir le COS quand vous partez et éventuellement quand vous revenez. Et aussi votre famille pour que les gens puissent savoir dans quel coin vous êtes allés.
Eh bien, merci à tous les deux d'avoir rappelé ces messages essentiels en cette période de l'année. Merci beaucoup.
Merci.
Une interview que vous pourrez retrouver évidemment et une émission en podcast sur notre site internet le www.rrb.nc. On va marquer une courte pause publicitaire. Ensuite, on va enchaîner avec le Café Gourmand sur Radio Rythme Bleu. Le prochain point sur l'actualité, ce sera à 13h avec le Flash.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.